Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus, on est heureux, je pense, bénis d'être ici, d'avoir pu chanter ces cantiques, d'avoir pu élever notre voix pour glorifier le Seigneur. Et maintenant, nous sommes heureux également de pouvoir entendre la parole du Seigneur. Je vous invite, on va faire trois lectures cet après-midi. La première dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, au verset 20. Samuel 15, verset 20, il est écrit « Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. On va ensemble dans le premier livre de Samuel au chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 9. 1 Samuel 19, verset 9. Il est écrit « Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder, le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade ». Saül y renvoya pour qu'il le visse et il dit « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir ». Ces gens revinrent et voici, le téraphin était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On va encore dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, verset 14. Il est écrit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül. » Regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien ». David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. » Amen. Voilà, on a fait trois lectures, peut-être un petit peu longues, mais je pense qu'il était nécessaire afin qu'on puisse comprendre vraiment le contexte de ce message, de ce qui a été mis sur mon cœur. Le premier point que j'aimerais aborder rapidement, c'est ce qui concerne la première lecture dans le premier livre de Samuel au chapitre 15, c'est l'importance de garder la parole de Dieu dans notre vie. On connaît tous, je pense, ce passage. On l'a lu, relu, médité, mais je pense que ce passage peut expliquer beaucoup, parce que je ne sais pas si vous avez un petit peu compris le fil conducteur cet après-midi, mais il y a un personnage sur lequel on va pouvoir s'attendre un petit peu, c'est Michal, la fille de Saül. Mais pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qu'il y avait dans son cœur, je pense qu'il était bon qu'on puisse voir ce contexte. Il y avait un ordre précis de la part de Dieu que Saül devait exécuter, devait prendre à cœur d'une manière précise. Il devait vouer par interdit le roi Amalek, le roi des Amalécites, Agag. Il était de première importance qu'il puisse le faire, parce que c'était dans la volonté de Dieu, parce que c'était voulu de Dieu. Et on se rend compte que dans cette histoire, ça va révéler vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de Saül. Il y avait là une incompréhension spirituelle, on ne va pas s'étendre vraiment sur ce passage, mais en tout cas, on voit qu'il y avait la désobéissance et la résistance qui étaient là dans le cœur de Saül, ce qui l'a empêché de pouvoir continuer sur le chemin que Dieu avait prévu. Dieu ne s'était pas trompé, Dieu avait vu en Saül quelqu'un qui aurait pu être le roi d'Israël, mais Saül s'est détourné. Il y avait là vraiment la désobéissance, on pourrait le traduire par rébellion, par une révolte quant au commandement de Dieu. Il y avait de la résistance, on pourrait le traduire par quelqu'un qui résiste à la volonté de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui volontairement n'a pas voulu faire ce que Dieu lui demandait, parce que peut-être il pensait vouloir faire plaisir au peuple, parce que peut-être il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes pour lui. En tout cas, voilà, c'est ainsi, il a désobéi à l'Éternel. Et je ne sais pas si vous voyez avec moi l'importance que c'était, parce que les Amalécites, ça remonte du temps de Josué. Lorsque ils sont venus pour faire la guerre au peuple d'Israël, lorsque Moïse était là, tenu par Aaron et Hur d'un côté, pour que Josué remporte la victoire. Et c'était une promesse que Dieu avait faite à Josué. C'est dans Exode 17, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Et quand bien même il s'est passé un certain temps, je ne sais pas ce que vous en pensez quant aux promesses que Dieu vous fait, peut-être que vous ne voyez pas de suite l'aboutissement, peut-être que vous ne comprenez pas, mais lorsque Dieu a voulu parler d'une manière personnelle à Josué en lui disant « Mais voilà, ne t'inquiète pas, je vais effacer son nom, je vais te donner, je vais te montrer ma fidélité », Dieu voulait, au travers de Saül, lui faire cette grâce de l'utiliser pour accomplir cette promesse. Et c'est pour ça que ça a été grave lorsque Saül n'a pas voulu écouter l'Éternel, parce qu'il n'a pas été l'instrument, il n'a pas voulu obéir et il n'a pas voulu accomplir cette promesse de la part de l'Éternel. Et on comprend peut-être mieux le contexte. Agag, on pourrait dire, c'est le péché. C'est ce qui pourrait symboliser le péché dans notre vie. C'est ce qui était marquant dans l'ennemi d'Israël, en tout cas. C'était ce qui essayait de corrompre le peuple d'Israël. Et c'était de première importance de pouvoir donner, montrer que le péché n'est pas appelé à régner dans la vie du peuple de Dieu. Le péché n'est pas appelé à venir se jouer avec le peuple de Dieu. C'était de première importance pour tout le peuple d'Israël de comprendre qu'il y a des choix à faire, qu'il faut vouer, on pourrait le dire comme cela, avec un langage peut-être que vous comprenez, mais qui était dans le temps, vouer par interdit le péché. Et quelquefois, j'avais cette pensée-là, on n'est pas vraiment dans le thème à proprement parler de ce message, mais peut-être je pourrais faire une petite parenthèse, parce que vous voyez, lorsque Saül n'a pas voulu obéir à l'Éternel, il semblerait que Agag, lui, il est un peu soufflé, il est respiré, il s'est dit « Ça va, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais pouvoir aller bien. » Il y a la Bible en français courant va dire « Je n'ai certainement plus à craindre la mort. » Et c'est ce que le péché voudra toujours essayer de nous faire croire, qu'on peut un petit peu jouer avec le péché et se dire « mais je n'ai certainement plus à craindre la mort, plus à craindre le péché, plus à craindre les conséquences de ce qui va être là dans ma vie, de ce que, de un petit peu ce compromis ». Et on le sait, Samuel, lui, va mettre un terme à la vie d'Agag, un terme au roi d'Amalek, et c'est ce que nous, on doit faire. En tout cas, il y avait une instruction, il y avait quelque chose de fort pour le peuple d'Israël. Et c'est ce que, peut-être par la suite, certaines personnes n'ont pas su saisir. Certaines personnes n'ont pas compris qu'il était de première importance de garder ce que Dieu nous dit pour notre instruction. Le peuple a été au courant de ce que Samuel a dit à Saül. Il n'y avait pas Facebook, Internet, mais je pense que ça devait aller quand même très rapidement. La maison de Saül a dû savoir qu'il allait être rejeté de Dieu parce qu'il n'a pas obéi. Sa fille, Michal, a dû le savoir, qu'il y avait là quelque chose d'important, qu'elle devait... même si son père n'avait pas vraiment obéi, qu'elle, en tout cas, devait faire ce choix, parce que c'est un choix qui incombe à chacun d'entre nous, de suivre ou de ne pas suivre ce que Dieu veut pour notre vie, de faire ce que la Bible nous demande, d'étudier, de méditer ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à notre vie. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, à ce moment-ci précis, a vu qu'il était de première importance d'obéir et de faire ce que Dieu demande. Et c'est en tout cas ce qu'il manquait peut-être dans la vie de Michal. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point cet après-midi, parce que s'il est de première importance d'écouter, de mettre en pratique la parole de Dieu, il y a un deuxième point, ce qui se rattache à ce deuxième texte que nous avons lu dans 1 Samuel 19, c'est que l'épreuve révèle notre piété. L'épreuve révèle notre piété. Je ne sais pas si vous avez retenu un petit peu et vous avez vu où je voulais en venir, mais on est là dans 1 Samuel 19. La désobéissance était là, tout le monde avait acté en tout cas le fait que Saül avait été rejeté de Dieu. On voit David venir, on voit qu'il est là et qu'il est approuvé de Dieu. Michal veut aller en prise de David, il se marie, il y a là quelque chose qui est fait par Saül, il y a là cette situation. Mais à un moment donné, on pourrait dire que tout allait plus ou moins bien. Vous savez, David remportait des victoires, l'amertume était là dans le cœur de Saül, Michal était là, on n'en entend pas trop parler, mais voilà, David est en danger. Et celle qui va être l'instrument pour le secourir, c'est sa femme Michal. Je pense que on peut dire que ça c'est une bonne chose, ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que nos épouses sont là pour soutenir, pour nous soutenir. C'est notre moitié. Et Michal va voir vraiment où son père voulait arriver, que son père voulait tuer David. Alors elle va lui dire, voilà, il faut que tu partes. Et jusqu'à là, tout va bien. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit notre attachement. C'est lorsque il y a un petit peu des tempêtes qu'on voit comment est-ce qu'on va réagir. On peut être ici assis cet après-midi, avoir chanté des cantiques, paraître un bon chrétien évangélique, et alors être complètement en déphasage quant à ce que la parole de Dieu nous demande. Peut-être qu'avant ça, on n'aurait pas vu que dans la vie de Michal, il y avait quelque chose qui était là, qui était comme un compromis. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait dit « Mais Michal, c'est une femme extraordinaire, une bonne chrétienne, attachée à son mari, attachée à l'église, attachée à la piété. » Et peut-être que vous pouvez vous dire ça aussi. « J'aime aller à l'église, je suis dans un confort spirituel, mais l'épreuve est là, les tempêtes sont là pour révéler ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain, pour vraiment montrer notre attachement, pour vraiment montrer que ce que l'on aime par-dessus tout, c'est ce que la Bible nous dit, c'est suivre les commandements du Seigneur. Elle va prendre son mari, elle va le faire partir par la fenêtre, jusque-là tout va bien. Je ne sais pas si vous voyez avec moi où est-ce que je vais en venir, mais là où ça commence un petit peu à poser problème, c'est que cette femme qui jusqu'alors, on ne savait pas trop d'elle, cette femme qui avait entendu Samuel dire « mais voilà, quand tu es résistant, c'est comme si tu avais des téraphins chez toi, c'est comme si tu étais en proie à l'idolâtrie ». Sa fille, la fille de Saül, avait certainement entendu cette parole. Mais voilà, quand vient l'épreuve, quand vient la difficulté, cette personne-là qui avait peut-être l'habitude de venir à l'église va utiliser dans un moment de crise le téraphin qu'elle avait chez elle. Le téraphin. Elle va prendre le téraphin, on l'a tous lu ensemble, elle va le mettre dans le lit pour, comme pour feinter, on pourrait dire, comme pour faire semblant que David était là. Mais ça a une portée plus profonde, cette action. Vous comprenez bien avec moi que elle avait ce téraphin. Alors on pourrait dire, mais David, je pense, et c'est un avis personnel, que David était tout autre, parce qu'il est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. On ne sait pas vraiment s'il était au courant qu'il y avait cela chez lui. En tout cas, voilà, elle va l'utiliser une fois que David est parti. Elle va l'utiliser comme pour dire, mais je n'ai plus de secours. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari est parti, les soldats sont à l'extérieur, ils voulaient tuer David. Il y a comme une situation qui me dépasse totalement. Elle aurait pu se tourner vers Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, on retrouve d'autres exemples où des personnes ont été, se sont échappées par des fenêtres. Il y a les deux espions envoyés par Josué, on connaît bien. L'apôtre Paul a été mis dans une corbeille, descendu le long de la muraille pour échapper à sa vie. Et dans ces autres endroits, on ne voit pas les personnes qui ont fait cela se tourner vers les idoles. Michal aurait pu crier à Dieu. Et dans ta vie, peut-être que tu peux crier à Dieu, tu pourrais crier à Dieu, mais tu as tendance à prendre les téraphins, comme Michal, alors que tu entends la parole de Dieu dire qu'il faut prendre position dans ta vie, dans notre vie en tant que chrétien. Si vous ne connaissez pas Dieu, la Bible condamne l'idolâtrie, c'est-à-dire ce qui va remplacer la première place, ce qui va prendre la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Vous savez, téraphin, lorsqu'on prend vraiment la signification, on pourrait dire, oh, mais là, le pasteur, il exagère un peu, on pourrait dire que c'est une petite statuette, comme quelques-uns peuvent avoir chez soi pour décorer, c'est pas ça du tout. La signification et ce à quoi ça renvoie, c'est idole de famille, bien sûr, mais la traduction littérale, l'origine du mot, on pourrait le traduire par celui qui guérit, celui qui va être utilisé pour lors d'une détresse personnelle, celui qui va réparer, qui va penser. Vous comprenez bien que lorsque une personne avait un téraphin chez soi, c'était comme si ce téraphin était son orientation. Lorsqu'il y avait un problème dans sa vie, elle se tournait vers ce téraphin. Lorsqu'il y avait une blessure interne, lorsqu'il y avait une détresse personnelle, cette personne se tournait vers le téraphin. Lorsqu'il y avait quelque chose de profond, lorsqu'elle avait besoin de pardon, elle n'allait pas voir Dieu, elle n'allait pas voir celui qui a créé tout l'univers, elle allait voir ce téraphin. Et c'était ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque Samuel va reprendre en disant, mais voilà, la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie et les téraphins. Et Michal, qui était dans une situation de crise, qui ne savait peut-être plus quoi faire, elle aurait pu se tourner vers Dieu, mais son réflexe était de prendre le téraphin. On peut se poser la question cet après-midi, mais vers quoi est-ce que tu te tournes? Vers quoi est-ce que nous nous tournons lorsqu'il y a des situations qui nous dépassent? Est-ce qu'on a des téraphins peut-être modernes de 2014, chez nous, à la maison, qui vont nous servir lorsqu'il y a des épreuves, lorsque peut-être on se retrouve confronté à une situation où on perd complètement pied, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser? Est-ce que notre réflexe, ça va être de se tourner vers la parole de Dieu? Est-ce que ça va être de prier, de venir à l'église, ou ça va être de dire, mais je vais trouver dans le monde, je vais trouver vers quelqu'un d'autre, un système, un moyen de m'en sortir? Pourtant, Michal, ça signifie, mais qui est semblable à Dieu? Qui est semblable à Dieu? La signification de son prénom, c'était comme une proclamation de foi, et on voit qu'il y avait ce déphasage dans sa vie. Qui est semblable à Dieu? Et pourtant, elle savait, peut-être qu'elle savait intellectuellement, mais elle n'avait pas expérimenté que Dieu pouvait agir dans ce domaine, à ce moment précis dans sa vie, que Dieu pouvait la secourir, quand bien même son mari partait, quand bien même il y a des gardes à la porte. Dieu est capable de nous secourir parce qu'il est tout-puissant, parce que sa parole nous le dit, parce qu'il y a des promesses, parce qu'il est capable de nous accompagner tous les jours de notre vie, de pouvoir nous étonner, de pouvoir nous épater. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là et on a ce devoir, si je puis dire, si je puis employer ce mot, ce devoir de considérer le fait que Jésus a fait cette promesse qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que cette promesse est une réalité pour nous ou cette promesse est simplement quelque chose qu'on a lu, quelque chose qu'on entend dans les prédications mais qui est tellement lointain de ce qu'on peut expérimenter ? C'est là la question qu'on peut se poser. En tout cas, nous voyons là Michaël qui a été révélé par cette épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ne tienne pas compte de ce qui a été enseigné à son père ? David, dans ce passage, et vraiment je me suis arrêté parce qu'on voit que c'est toute une autre histoire. Parce que David, lui, risquait vraiment sa vie. David s'enfuit et le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller voir l'homme de Dieu. Le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller voir Samuel à Rama. Et Rama, ça signifie haut lieu, hauteur. Et David, il sait pertinemment que dans la détresse, dans le danger, il faut aller vers le Seigneur. Il sait qu'il a cette connaissance, il a cet amour de Dieu, de savoir que lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, Saül, c'était quand même quelqu'un qui était proche de David. Un des siens qu'il a rejeté. Il savait une seule chose, c'était que son secours était en l'Éternel. De Rama, il va aller à Najoth avec le prophète. Et j'ai juste noté ça parce que c'est extraordinaire. La traduction du mot, c'était un lieu qui servait d'habitation pour les prophètes. Donc on comprend pourquoi il s'en va avec Samuel à Najoth. Mais la signification, c'est se reposer, demeurer tranquille. Demeurez tranquille. Michal, elle, a recouru au téraphin. Michal, elle, ne connaissait pas la paix. Michal, peut-être, avait entendu parler de cette paix que le monde ne peut pas connaître. Michal avait écouté des prédications, effectivement, entendu parler que Jésus est mort sur la croix, mais on peut l'entendre et rester lointain de ces choses. On peut peut-être venir à l'église et être sans cesse dans nos pensées, dans nos problèmes, dans nos difficultés, et être complètement en dehors de ce que Dieu voudrait pour nos vies. Mais David, lui, il savait que, quand bien même il y a des choses difficiles, on ne peut pas s'imaginer ce qu'il a vécu, David. On ne peut pas. Mais David savait que, lui, sa place, c'était là où l'homme de Dieu était. C'était dans l'église, c'était dans la communion fraternelle, c'était dans la prière, dans la lecture de la parole. David savait que quand bien même il y avait là une épreuve terrible, il pouvait demeurer tranquille. Il pouvait être à Najoth, il pouvait être là dans le calme et la tranquillité. Je pense sincèrement qu'il a expérimenté ce verset. C'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » La fin du verset, peut-être qu'on ne cite pas trop, c'est « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Mais vous ne l'avez pas voulu. David, lui, l'a voulu. Je ne sais pas si cet après-midi, vous voulez goûter à cela. Si cet après-midi, vous voulez vous diriger vers Najoth, vous voulez vous diriger vers cette ville, peut-être que c'était une ville quelconque, mais qui avait une signification profonde, une signification qui dit que quand bien même il y a l'épreuve, la difficulté, quand bien même il y a des choses qu'on ne comprend pas, le chrétien, lui, est appelé à demeurer tranquille, à se reposer, à avoir confiance en son Dieu. Peu importe même que si les circonstances que l'on voit sont contraires à cette parole, vous savez. Peut-être que David, il se disait, mais là, ça va mal pour moi, ça va mal. Saül va peut-être réussir à m'attraper, mais en tout cas, même s'il ne voyait pas d'un premier abord, il savait que c'était dans la tranquillité, qu'il savait qu'il pouvait avoir cette paix. Et pour nous, ça nous parle de Jésus-Christ, bien entendu, parce que Jésus-Christ nous a dit, je vous laisse ma paix. Et s'il nous laisse sa paix, ça veut dire que dans les situations difficiles, nous avons accès à cette paix. On a accès à cette paix dans les temps de bénédiction, dans l'abondance, mais également dans les difficultés. Ce qui nous amène au troisième point, et après quoi je terminerai avec ce point. Ça nous amène à ce troisième texte que nous avons lu. C'est « La piété amène le zèle et le compromis nous amènera toujours dans la tiédeur. » Toujours, ça nous éloignera toujours. « La piété amènera le zèle », c'est dans 2 Samuel 6 versets, les versets qu'on a lus, mais particulièrement le verset 16. Il nous est dit que David va ramener l'Arche de l'Alliance. C'est quelque chose, je pense, d'extraordinaire. La présence, ça symbolisait, bien entendu, vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, ça symbolisait la présence de Dieu. Il va vouloir ramener la présence de Dieu. C'était là une fête extraordinaire. Il va être là avec tout le peuple. La présence de Dieu est là, le peuple se réjouit. Et Michal, il nous a dit qu'elle regarda de loin. Elle regarda de loin par la fenêtre. Michal, elle ne participe pas à la fête. Elle ne participe pas à la fête et elle ne peut pas se réjouir avec le peuple. On a lu plus loin que dans le peuple, il y avait les femmes également avec les hommes. On ne peut pas dire que la présence des femmes était interdite. Il y a là vraiment son état d'esprit, son cœur. Ce même cœur qui avait eu recours au téraphin. Vous savez, des fois, on se dit, mais dans notre vie, je peux faire ça, mais ça va, c'est pas grave, je maîtrise la situation. Vous savez, j'utilise quelquefois, j'ai des solutions dans le monde, je mets de côté la Bible, je mets de côté ma vie chrétienne, mais vous inquiétez pas, je maîtrise totalement. Et on se rend pas compte que notre cœur se ferme, on se rend pas compte que la tiédeur s'installe, le compromis s'installe, et ce compromis, ça nous éloignera toujours de cette joie, de cette paix. Michal, regardez de loin. Elle ne participait pas avec le peuple. Elle était loin et elle regardait par la fenêtre. Vous savez, ça m'a fait penser, je pense que là, vous y avez tous pensé peut-être, en tout cas, à Eutychus dans le Nouveau Testament. Cet homme qui était là, l'apôtre Paul prêchait, et il était assis sur le rebord de la fenêtre et il va basculer du côté de la rue. C'est le genre de personne, ils aimeraient toujours être ailleurs, où ils ne sont pas au bon endroit, ils sont mal à l'aise dans la vie. Un chrétien qui est mal à l'aise, qui va peut-être dans une église, dans une autre église, il ne sait pas trouver sa place parce que tout simplement dans son cœur, il y a ce compromis, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et Michal va regarder cela de loin. Elle ne participera pas à la fête, elle va être lointaine par rapport à cela. On n'est pas appelé à regarder la présence de Dieu de loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, nous qui sommes chrétiens, vous qui êtes là, baptisés, engagés, est-ce que vous pensez qu'on est appelé à regarder les autres se réjouir et nous on est appelé à rester enfermés? Est-ce qu'on est appelé à regarder les autres jouir d'une bénédiction, jouir de la guérison? Vous qui êtes là, peut-être que vous ne connaissez pas toutes les choses de Dieu, vous ne comprenez pas. Dieu ne nous appelle pas à rester au loin et regarder les choses se manifester. Dieu nous appelle parce que Jésus-Christ a payé le prix, parce que le voile a été déchiré. Dieu nous appelle à être dans cette intimité, dans cette proximité, parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et Michal, elle, n'a pas pu participer. Il est dit qu'elle va mépriser David. Et j'ai trouvé cette signification, on connaît tous la signification de mépriser, mais ça m'a plu. On pourrait traduire mépriser par prix inférieur à la valeur réelle. Regardez une chose comme une valeur inférieure à la valeur réelle. Je voudrais une Ferrari pour 100 euros. Je voudrais une maison avec piscine pour 1000 euros. Vous comprenez, on regarde les choses et on donne un prix inférieur, comme si ça ne valait rien. Comme si ça ne valait rien, comme si ça n'avait aucune valeur, comme si c'était quelque chose de rien, comme si ce n'était pas estimé. Et c'est ce qu'a fait Michal. C'est ce qu'a fait Michal, elle a méprisé. Et on fait tous le lien peut-être dans Ésaïe 53, parce que c'est ce qu'on a tous fait pour le Seigneur. C'est ce qu'on a tous fait. On pourrait tous se dire, oui, j'ai méprisé Jésus-Christ. Dans ma vie, je l'ai regardé comme inférieur à sa valeur réelle. Je l'ai regardé comme quelque chose de rien. Mais ce qui nous a sauvés, c'est qu'il nous a aimés et c'est que nous nous sommes repentis. C'est qu'il a payé le prix sur la croix pour nous donner cet accès, pour que nous puissions venir, pour que nous puissions goûter au pardon. Michal aurait pu demander pardon. Il n'y a pas de situation figée. Il n'y a pas de situation où Dieu ne peut pas nous pardonner, bien entendu. Je mets entre parenthèses le péché contre le Saint-Esprit, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Michal aurait pu se dire, non, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Parce que lorsqu'elle va sortir pour aller à la rencontre de David, ce n'est pas pour lui demander pardon, mais pour se moquer de lui. Ce qui fait toute la différence, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Et nous, de nous regarder comme pécheurs. De nous regarder, de considérer, oui Seigneur, peut-être j'ai mal agi. Oui Seigneur, effectivement, j'ai laissé le compromis rentrer. Je ne veux pas rester figé dans mes positions. Je ne veux pas passer toute ma vie à regarder les choses derrière une fenêtre. Je ne veux pas regarder ta présence combler les autres. Je ne veux pas regarder les autres se régaler avec cette viande, ces gâteaux de raisin. Je ne veux pas, je veux que moi aussi, je veux goûter à ces mets succulents. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que vous, cet après-midi, peut-être vous êtes lointain des choses de Dieu. Peut-être qu'il peut y avoir mille et une choses dans vos vies. Mais cet après-midi, le Seigneur nous invite, nous encourage à venir dans sa présence, à sortir, non pas pour critiquer, non pas pour dire « Seigneur, voilà, regarde ce qui se passe dans ma vie, si tu avais été là, non. » Mais pour sortir de chez nous, pour sortir de nos cloisonnements, comme pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens remplir ma vie, viens inonder ma vie, viens me pardonner, j'ai envie de goûter combien le Seigneur est bon. » Dans Romains, il est écrit « Méprises-tu les richesses, Romains 2, méprises-tu les richesses de sa douceur et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. » La bonté de Dieu te convie à la repentance. La repentance était disponible. Si tu ne laisses pas, vous savez, quelquefois, les personnes se laissent accuser par des choses, par ce qu'ils ont fait. On ne veut pas se laisser accuser cet après-midi, mais on veut rentrer pleinement dans cette vie de bénédiction. On veut se réjouir parce que Jésus-Christ a tout payé, parce que sa parole est bonne pour nous. Et si elle nous reprend, c'est pour nous combler de ses bienfaits, de sa bénédiction. La finalité de la vie de Michal, c'est un peu particulier, parce que c'est vraiment le contraire de ce à quoi nous sommes appelés. Il est écrit que Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Il n'y avait pas la vie qui émanait de sa personne. Elle ne pouvait pas, après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas donner la vie. Nous sommes appelés à donner la vie. Le chrétien est appelé à donner la vie. Vous qui êtes là, peut-être vous connaissez que cet état où la vie ne s'émane pas, parce qu'il peut y avoir mille et une choses. Chacun est là, libre, et je pense qu'on sait peut-être ce qu'il y a dans nos vies qui freine, qui bloque la présence de Dieu. Michal n'a pas pu avoir d'enfant. Nous sommes appelés à avoir des enfants, à répandre la vie, à goûter à cette abondance pour nous, pour notre propre vie, mais à la communiquer autour de nous. Je peux vous lire ce verset, je terminerai. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion l'un envers l'autre, vous entraînant fraternellement. Ne rendez point le mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez, sachant que vous êtes appelés à cela, afin que vous héritiez la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à communiquer la vie, nous sommes appelés à donner ce que Jésus-Christ nous a donné. Cet après-midi, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Jésus-Christ le sait. Peut-être que vous avez entendu depuis plusieurs temps déjà Dieu vous parler sur un domaine et vous n'y avez peut-être pas prêté attention, vous avez négligé peut-être la parole de Dieu, vous vous êtes dit « mais je verrai ça plus tard ». Et en laissant ça plus tard, mais vous voyez que votre cœur peut-être devient un peu tiède, il y a ce manque de foi, cette incompréhension, vous trouvez peut-être que c'est plus comme avant, je ne sais pas peut-être comment vous pouvez l'expliquer en tout cas. Cet après-midi, Dieu nous donne encore cette capacité, cette possibilité de venir, de sortir de chez nous pour participer à cette fête. L'Église, c'est là un endroit où on peut se réjouir parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Notre domicile, c'est un endroit où on peut se réjouir. La vie chrétienne, c'est une vie de réjouissance, quand bien même il y a des épreuves. Comme David, nous savons que en qui nous croyons, nous savons que Jésus-Christ a tout payé et qu'il sera toujours fidèle avec nous dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle est vivante. Tu nous parles. Merci parce que tu es toujours prêt à nous aimer, à nous pardonner. Merci Jésus-Christ parce qu'il t'a plu de donner ta vie pour que nous puissions goûter à cette vraie vie, à cette vie de liberté, d'abondance. Nous sommes tellement heureux, nous qui avons expérimenté cela. Père, je te prie, si dans ce lieu, cet après-midi, il y a des personnes qui sont bloquées, peut-être qui ont des téraphins chez eux, des idoles, des choses, où ils n'ont pas prêté attention, Père, s'il te plaît, montre-leur qu'en toi, ils ont tout, qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans le monde le secours parce que tu es pleinement suffisant. Père, peut-être il y a là aussi des chrétiens qui sont enfermés chez eux, qui regardent passer leur vie au travers de la fenêtre, passer les bénédictions au travers de la fenêtre. Le Seigneur nous appelle cet après-midi à sortir pour aller nous réjouir avec les autres. Il n'y a rien qui puisse bloquer l'œuvre de Dieu en nous. Nous devons tout abandonner, nous devons nous repentir et prendre sa parole avec foi. C'est à cela qu'il nous appelle parce que Dieu nous aime. Et il veut que nous puissions bénir, communiquer la vie. Il veut que c'est là son désir. Non pas que nous soyons stériles, mais que la vie émane de nous pour que nous puissions être une source de bénédiction. Père, merci pour cela. Merci de nous communiquer ta vision pour nos vies, de nous aider à marcher sur ce chemin de consécration. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.